8h15 à l'été, c'est Cayenne. Et comme à tous les 8h15 des mardis, bien, on reçoit Éric Trudel pour la chronique du logement social. Et bon, voilà, aujourd'hui, on a de l'actualité. On décortique également le logement social étudiant. Merci encore, Éric, d'être là.
Ben, ça me fait plaisir, Gabrielle. Oui, c'est ça. Dans l'actualité, ben, en fait, il y a une étude là, de l'Institut national de la santé publique qui est sortie dernièrement, ça fait une semaine ou deux, qui parle, en fait, du logement et les inégalités sociales de santé en temps de COVID. Ils proposent d'ailleurs dans leur document des stratégies pour des logements abordables et de qualité, parce qu'ils ont fait une étude là justement pendant la COVID pour voir justement quel effet ça avait d'avoir un logement qui était moindre qualité, autant au niveau de sanitaire, au niveau habitat intéressant, surtout dans le cas d'un confinement comme on a vécu.
Oui, on a fait le tour de nos quatre murs assez rapidement maintenant.
Effectivement. Alors, eux autres, ils ont regardé un peu les mesures de prévention et de contrôle qui seraient mises en place pour se protéger justement de risques sanitaires qui sont en cours, mais qui pourraient peut-être survenir encore là, au cours des prochaines années. Vu que, bon, la majorité, comme on disait, ont dû rester à la maison, donc d'avoir un bel endroit, un endroit agréable à vivre, je pense que c'est devenu presque une priorité hein, avec tout ce qui se passe pour le moment. Et ils ont regardé un peu les impacts que ça avait là, pendant la crise sanitaire. Fait que le logement, en fait, ils ont aperçu que c'était effectivement un important déterminant de santé, autant de bien-être puis de la qualité de vie. Là. On parle de santé physique, mais bien sûr santé mentale. Hein,
oui, parce que quand on est bien chez soi, c'est une bonne base pour le reste. Là. On dort bien, on a tendance à mieux se nourrir, on a plus de bonne humeur, j'imagine.
Effectivement, puis on sait qu'il y a eu quand même encore des gens qui habitent des logements insalubres, qui sont pas sécuritaires, puis même surpeuplés parfois. Bien, ça entraîne bien sûr des effets négatifs sur leur santé physique et mentale. Donc, d'après eux, un logement sain et sécuritaire, là, c'est comme un facteur de protection, t'sais, autant pour contre la transmission de la COVID-19, mais bien sûr, autant pour la santé mentale et santé physique. Là. Donc, toutes les populations qui sont défavorisées, qui sont moins bien logées, donc, ben, sont moins bien protégées aussi face à la COVID-19 là, pendant un confinement. Puis pendant la présente pandémie, là, les inégalités sociales là, face au logement ont augmenté encore plus, hein, étant donné qu'il y avait des conditions qui ont fait en sorte que les logements, d'ailleurs, on a vu qu'il y a eu une crise du logement, une augmentation des prix du logement.
Les gens sont à la recherche d'un meilleur endroit pour vivre, puis c'est pas tout le monde qui peut s'offrir de bouger non plus.
C'est ça, ben oui. Puis il y a les contre-coups économiques aussi hein, de la pandémie, parce que, comme on vient de le dire, ça a eu un effet sur le prix de plusieurs choses, entre autres des matériaux. On a parlé beaucoup des matériaux qui étaient difficiles à se procurer au cours des derniers mois. Donc, ça, tout ce qui était rénovation a entraîné des coûts plus élevés que ce qui était prévu. Alors, ça augmente aussi les prix du loyer à ce moment-là. Puis souvent, c'est les familles nombreuses ou les ménages qui sont défavorisés qui, eux autres, sont plus impactés par ça. Donc, à court terme, les autres, ce qu'ils proposent, ce qu'ils suggèrent, là, l'Institut de la santé publique, c'est d'avoir une aide d'urgence là, aux ménages là, en situation qui sont précaires pour diminuer justement l'instabilité résidentielle là, qui vivent beaucoup d'entre eux. Puis aussi en permettant le report ou l'allègement des contraintes économiques qui est liées au logement, là, soit en minimisant le nombre d'ordres d'éviction dû aux des loyers en souffrance, d'être plus tolérant vers justement des gens qui ont plus difficile à payer leur loyer quand ils ont vu des pandémies, bien sûr.
Et quelles sont les ressources, justement, pour ceux qui vivent de grandes inégalités sociales et qui ont de la difficulté à demeurer dans un logement ou à en trouver un carrément?
Ben c'est sûr que dans chacune de vos régions, habituellement, il y a souvent un organisme d'aide au logement qui existe, ou alors parfois c'est d'aide alimentaire qu'on peut avoir aussi, là, comme tu parlais tout à l'heure de la Parate, vous avez rencontré des gens, c'est un de ces organismes-là, entre autres, qui en a dans différents endroits au Québec. Alors, c'est bien de s'informer autour de soi, puis sinon, comme je pense qu'on en a parlé à la dernière chronique, le 211, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour savoir ce qui existe près de chez vous, là, au niveau des organismes communautaires, pour que ce soit tout type d'aide, là, soit l'aide alimentaire, l'aide au logement, etc. Donc, il y a plein d'organismes qui sont là pour vous, puis il s'agit juste de bien les connaître, là. Je veux juste terminer, il y avait deux éléments encore qui parlaient. Donc, pour eux, là, l'Institut de la santé publique, ils disent que c'est important de mieux documenter les caractéristiques, du parc de logement pour mieux saisir là, les impacts sur la santé là, de la population québécoise. Puis eux, bien sûr, ils disent que d'investir dans le logement social et communautaire, c'est une stratégie là, qui permettrait de répondre de manière durable à plusieurs problématiques, justement, qui est liée à la pandémie puis à l'habitation.
Éric Trudaine, dans la chronique de logement social, aujourd'hui, on démystifie le logement social étudiant parce que c'est différent du logement social, point.
Bien, en fait, c'est une initiative un peu différente. C'est assez récent, là. Il y a eu en 2010 la création d'un organisme qui s'appelle l'Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, donc UTILE, ça s'appelle UTILE.
Ah,
si on
c'est
parle
facile à retenir.
Oui. Et donc, c'est bien sûr, il aide au développement, l'étude puis la promotion du logement étudiant au Québec, là, selon principalement une formule coopérative, mais il y a différentes formules mais qui sont en développement. Donc, en fait, c'est les premiers logements sociaux étudiants sont assez récents. Entre autres, il y en a un qui est en construction en ce moment, c'est à Val-d'Or. Ça s'appelle la Cité étudiante Desjardins, qui va avoir 3 immeubles là, de 15 logements qui vont comprendre un total de 168 chambres.
Wow.
Puis ça va pas être seulement pour les étudiants de l'université là, dans ce coin-là, mais aussi pour pour le cégep puis le centre de formation professionnelle qui est à Val-d'Or. Là.
Et les résidences pour étudiants, est-ce que c'est considéré comme du logement social étudiant?
Pas directement, nécessairement, parce que c'est déjà une offre directement liée à l'université ou au cégep, dans ce cas-ci. Mais dans les cas de logements étudiants, logements communautaires étudiants, logements sociaux, eux, c'est des initiatives soit citoyennes ou d'organismes comme l'UTILE, là, qui est spécifique là, à ce moment-là. Là. C'est pas nécessairement le même type de logement. Là.
Puis pourquoi les résidences, c'est pas considéré comme un logement social? Est-ce que c'est parce que c'est trop cher, c'est moins accessible? Dans le fond, c'est pourquoi?
c'est plus parce que c'est une initiative qui est directement de l'université. C'est l'université qui met ça disponible à disposition des étudiants. Mais c'est bien sûr, ils ont quand même des logements là, à prix abordable. Là, mais il y a quand même une offre qui n'est pas assez grande pour, bien sûr, fournir à tout. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement une étude qui disait que ça a été réalisé en 2017, d'ailleurs, ici, dans la ville de Québec. Hein.
Ah oui?
Ils ont compté qu'il y aurait autour de 30 000 locataires universitaires là, seulement à Québec.
C'est énorme!
Donc, il y en a au moins 6 000 là, qui seraient en situation précaire là, au niveau du logement. Donc, c'est quand même beaucoup. Là.
C'est énorme, oui.
Donc, quand on parle ici à Québec, ben, on a une université, mais imagine à Montréal, là, il y a 4 grandes universités, plus d'autres grandes écoles là, qui sont présentes. Là.
Et on s'entend qu'à Montréal, juste trouver un appartement disponible,
ouais,
c'est un bon défi. Mais quand on est dans une situation de précarité financière ou quand on a besoin d'un logement social et qu'on est étudiant en plus, c'est une bonne paire de manches.
Effectivement. Donc, il y a en ce moment aussi donc, il y a une mise en chantier qui se fait à Rosemont, dans le quartier Rosemont, qui est le premier projet étudiant abordable interuniversitaire, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'université qui participe, mais c'est pour être disponible pour les plusieurs universités. Donc, c'est dans le quartier Rosemont. Ça s'appelle le projet de la Rose des Vents, qui va accueillir 123 logements qui sont destinés là, aux étudiants là, dans ce secteur-là.
C'est des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a des initiatives comme ça, des chantiers de construction comme ça à Québec?
Oui, effectivement, j'allais t'en parler. C'est très récent. Là. C'est en juillet là, que la Ville de Québec a annoncé qu'il y aurait un financement, là, qu'il a déposé un financement de 200 000 $ pour le développement d'un projet de 200 logements tout près du campus de l'Université Laval.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Il me semblait aussi qu'il y a des trucs qui se trament à Montréal. Habituellement, on a un équivalent à Québec.
Effectivement. Puis, même chose à Trois-Rivières. Il y a l'UQTR en collaboration avec UTILE, justement, l'organisme que je parlais tout à l'heure, et l'Association générale des étudiants, qui développe un projet semblable, puis qui, lui, va comprendre 101 unités de près du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Puis nous, cette annonce-là qui a été faite en juillet à Québec pour quelques centaines de logements, des unités près du campus de l'Université Laval, ça devrait apparaître quand, On sait-tu?
J'avais pas l'information, je te dirais. C'est dans la nouvelle que j'ai vue. On parlait simplement du financement qui a été accordé par la ville. Mais bon, c'est sûr que ça se fera pas demain matin. Hein. On parle quand même de quelques années
sans
de construction.
Etc.
Puis je te parle d'un autre projet qui est en préparation. En fait, il y a des démarches pour que ça devienne l'ancien hôpital Royal Victoria qui est près du Mont-Royal à Montréal.
Oui.
Il y a plusieurs pressions de la population pour en faire justement des logements sociaux là, à cet endroit-là.
C'est une bonne idée, je veux dire. La bâtisse est déjà là. Pourquoi ne pas en profiter?
Effectivement, puis ça répondrait à des besoins là, quand même de plusieurs universités qui sont quand même proches là, de ce secteur-là.
Éric Trudel, c'est la chronique Logement social, ton avant-dernière déjà aujourd'hui.
Ça passe vite. Hein?
Oh, oui, ça passe très, très vite. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas nous parler la semaine prochaine?
La semaine prochaine, je vais vous faire un petit peu quelques suggestions. Tu sais sûrement que cette semaine, c'est la campagne J'achète un livre québécois, le 12 août. Alors, je vais vous proposer des livres, mais aussi des vidéos, des documentaires à regarder pour en savoir plus là, sur le logement social.
C'est une excellente idée, puis ça va être à l'air du temps. En plus, Éric Trudel pour la chronique du logement social, un gros, gros merci d'avoir été là.
Merci à toi.